Radio Kapi.
Le journal Noé Laluzi Tukabambi à la présentation.
La mobilisation en tout azimut de la majorité des pays au niveau de la sous-région et ailleurs en faveur de la RDC, le ministre de la Communication et Médias s'en réjouit. Au cours d'un briefing de presse hier, Patrick Muyaya s'est réjoui aussi de la réunion conjointe du sommet des chefs d'État et de gouvernement EAC-SADC et planté le décor d'une paix durable dans l'est du pays. La CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, réitère son plaidoyer de voir le gouvernement de la RDC signer en urgence l'arrêté ministériel portant réglementation du travail des défenseurs des droits humains, propos tenus dans le contexte de répression et de restriction des libertés dans la partie est de la RDC, notamment à Goma. Alphonse Mataël, invité de Radio Okapi ce matin, il est le coordonnateur au Maniema du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient, PADRIR. Il va dresser le bilan des travaux de réhabilitation des 700 km de route dans cette province. Bonjour à tous. Le ministre de la Communication et Médias s'est réjoui que la réunion conjointe du sommet des chefs d'État et de gouvernement EAC-SADC ait planté le décor d'une partie durable, d'une paix durable dans l'est de la RDC. Patrick Muyaya a fait cette affirmation lors du briefing de presse qu'il a animé hier lundi à Kinshasa. Il a aussi salué la mobilisation tout azimut de la majorité des pays au niveau de la sous-région et ailleurs en faveur de la RDC. Les propos de Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias, sont recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
Il y avait une grosse pression qui pesait sur la région parce qu'il y avait des risques d'embrasement et cette réunion a permis de baliser la voie et nous allons être évidemment vigilants dans les cadres du suivi de ce qui avait été convenu et des actes qui doivent être posés par les uns les autres pour que nous puissions nous arriver à notre objectif qui est de la restauration de la sécurité à Goma avec évidemment les départs des agresseurs et surtout immédiatement la possibilité pour nous d'envoyer de l'aide humanitaire à nos compatriotes et voir comment soulager les cas des blessés et ceux qui sont pris entre les mains plutôt des agresseurs qui sont le monde, en tout cas pour ce qui concerne la question des droits de l'homme, s'est particulièrement mobilisé pour soutenir la République démocratique du Congo. C'est pour la première fois, avec la répétitivité de crimes que nous avons dans l'est de la RDC, que la plus haute instance de droits de l'homme mondiale décide d'avoir d'abord une mission qui viendra immédiatement pour faire l'établissement de faits commis de manière claire par les militaires et les soldats rwandais.
Autre réaction au sommet conjoint SADC-EAC sur la situation à RDC, c'est celle du porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric de la Rivière, au cours d'un briefing de presse hier. Nous nous félicitons de la tenue du sommet conjoint de la communauté de développement de l'Afrique australe et de la communauté de l'Afrique de l'Est, qui s'est tenu samedi en Tanzanie et qui a réaffirmé le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, a déclaré Stéphane Dujarric de la Rivière. Les Nations Unies restent déterminées à soutenir les mesures immédiates annoncées, notamment un cessez-le-feu immédiat, l'acheminement urgent de l'aide humanitaire et des mesures visant à assurer la sécurité de Goma et de ses principales infrastructures. Nous réitérons notre appel à la reprise immédiate des processus de paix de Luanda et de Nairobi qui sont essentiels pour une résolution durable de la crise. Selon le porte-parole d'Antonio Guterres, les Nations Unies restent pleinement engagées aux côtés du peuple congolais et sont déterminés à continuer à remplir leur mandat en soutenant les initiatives de paix, contribuant ainsi à un avenir stable et sûr. Direction Nord-Kivu, avec cet appel d'un groupe de déplacés de guerre originaire du groupement de Mouigné dans le territoire de Lubero, il lance un vibrant appel à l'unité et à l'entraide à la population locale. Il plaide également pour la restauration de la sécurité dans leur milieu d'origine, comme l'explique Martial Papimukeba dans ce reportage.
Les déplacés qui ont été contraints de fuir leur milieu après les massacres dans plusieurs villages du groupement de Mouigné ont exprimé leur profonde douleur face aux pertes humaines, aux pillages et aux destructions massives, notamment l'incendie des maisons. Cette situation a conduit ces nécessités à appeler à une solidarité renforcée et à un soutien mutuel pour faire face à cette crise humanitaire sans précédent. Lors d'une rencontre tenue dans la commune de Voulamba ce dimanche, ces déplacés ont formé un comité comité chargé de suivre de près la situation des victimes, en particulier des familles qui ont tout perdu, mais aussi des élèves dont les écoles ont été envahies par des groupes armés. Le comité a pris l'initiative de documenter les pertes humaines et matérielles, en fait d'identifier les responsables de ces violences et de permettre une action en justice. Au-delà de cet appel à la solidarité entre les citoyens, ils ont particulièrement insisté sur les retraits des troupes du groupe Wazalendo de l'IPLC présentes dans leur zone pour restaurer un minimum de sécurité et permettre le retour des populations déplacées dans leurs foyers.
Un autre appel, c'est celui du cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO. Lors d'un échange le week-end dernier avec des évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO et de l'Église du Christ au Congo ECC, dans le cadre du pacte social pour la paix et le bien-vivre, la directrice exécutive du CAFCO a proposé l'ouverture d'un couloir humanitaire à Goma. Pour elle, cela permettra aux humanitaires de faire parvenir de l'aide aux populations meurtries de Goma et de ses environs qui manquent de tout. Les propos de Grace Lula sont recueillis par Blaise Ndongala-Mayanda.
On a joué un très grand rôle, vous le savez, dans le dialogue intercongolais où nous avons laissé tomber toutes nos colorations, différenciations pour parler au nom de la paix, au nom de la cohésion, au nom de la construction, en tout cas, de vivre ensemble et de la cohésion. La préoccupation que nous avons, il y en a beaucoup, comme on n'a pas de problème, on préparera notre cahier de charge qu'on va vous déposer. Mais une grande préoccupation que nous voulons déjà soulever ici, c'est la question de l'ouverture du couloir humanitaire. Nous savons que c'est vraiment un drame. Les gens sont dans le dénuement total et même que les tueries continuent. Mais ceux qui ont survécu, pour qu'ils ne meurent pas de soif, de faim, de maladie, est-ce qu'il n'y a pas lieu de hausser le ton déjà maintenant pour qu'on ouvre un couloir humanitaire pour venir en aide à ceux qui ont survécu à ce drame de Goma?
Grace Lula Amba a en outre fait savoir qu'il y a urgence actuellement à Goma, où les femmes et les enfants payent un lourd tribut de la guerre. Lancement ce lundi, donc hier à Kinshasa, par le ministère du Genre, Famille et Enfants, du projet Moissy Congolaise, en partenariat avec Objectif Group, une entreprise spécialisée dans la vente des pagnes. Ce projet vise à apporter une assistance matérielle tant aux militaires au front qu'aux femmes victimes de violences sexuelles dans l'est de la RDC, à travers la vente d'un pagne spécialement conçu pour cette cause. Cette activité s'est tenue en marge de la Journée internationale des droits de la femme, célébrée le 8 mars. Le détail dans son reportage de Plantin Yambenga.
Représentant la ministre Léonie Kandolo, la secrétaire générale au genre, famille et enfants, revient ici sur les objectifs de cette campagne. Esther Kamwania.
Cette journée a pour objectif de mobiliser et de conscientiser la population sur les violences que subissent les femmes congolaises pendant la guerre de l'Est de notre pays.
Pour sa part, le directeur pays d'ONU Femmes, Adama Moussa, a lancé un message de réconfort aux victimes de l'agression.
ONU Femmes, à l'instar de l'ensemble des agents du système des Nations Unies, soutient vivement la mise en œuvre effective de la résolution du Conseil des droits de l'homme lors de sa 37e session spéciale du 7 février 2020.
Anadi Saraki Balabala, directrice d'Objectif Group, explique ici les contextes ayant conduit à la confection de ces pagnes qui sera mise en vente.
Après son départ dans la félicité éternelle, je me suis fixé l'objectif d'immortaliser maman à travers le pagne. Voilà comment est né le wax de Maman Moseka. Vous constaterez d'ailleurs que le logo est une représentation de son beau visage.
Notons qu'à cette occasion, le ministère a révélé le thème national de la Journée internationale des droits de la femme 2025, intitulé « La Congolaise au centre de toutes les ambitions ». Plusieurs personnalités politiques ont pris part à cette activité, dont les députés, mais aussi des acteurs de la société civile.
La CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, réitère son plaidoyer de voir le gouvernement de la République signer en urgence l'arrêté ministériel portant réglementation du travail des défenseurs des droits humains. Cette déclaration intervient au vu des actes de répression et des restrictions des libertés dans la partie est de la RDC, notamment à Goma, depuis l'invasion de cette ville par le M23 et l'armée rwandaise. Elle encourage dans la foulée les États membres et non membres du Conseil des droits de l'homme pour la solidarité exprimé à la RDC et le soutien lui accordé en vue du rétablissement total de la paix dans la partie est du pays ainsi que la pacification de toute la région des Grands Lacs. Son président Paul Nsapo s'exprime au micro de Billy Yvan Lutumba.
La CNDH RDC, soucieuse de la situation inquiétante actuelle des défenseurs des droits de l'homme, des autres populations civiles et des restrictions des libertés fondamentales consacrées par la Constitution de la République démocratique du Congo réitère sa position de la signature en urgence de l'arrêté ministériel des droits humains réglementant les activités du défenseur des droits de l'homme au vu de la loi numéro 23/027 du 15 juin 2023 relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits humains en RDC. La CNDH salue la mise en place de la commission d'enquête internationale du Conseil des droits de l'homme sur la situation des droits humains en RDC en cette période cruciale et en profite pour rassurer le Conseil de sa disponibilité d'accompagner cette mission.
Restons à Kinshasa. Déploiement du personnel de la police depuis hier 10 février sur terrain dans la ville. Cette mission d'évaluation et de suivi du respect des droits humains va se déployer aussi dans toutes les provinces où est implantée l'inspection générale de la police. C'est ce que renseigne un communiqué parvenu hier à Radio Okapi. Le commandant de l'IGPNC, le commissaire divisionnaire principal qui signe ce communiqué, invite tout Congolais victime des actes inciviques ou dégradants de la part des policiers de saisir les unités mises en alerte pour cette cause. D'autres détails avec Billy Ivan Lutumba.
L'inspecteur général de la police classe parmi les actes de violation des droits humains à rapporter auprès des unités mises en place tout cas d'arrestation arbitraire, détention illégale, taxation exorbitante et non conforme des amendes transactionnées par les OPJ, les tortures, les traitements inhumains, cruels et dégradants. Il cite également les tracasseries sous toutes ses formes, en l'occurrence la concussion, l'extorsion et autres actes d'antivaleur commis par les policiers vers eux. Comment contacter ces unités? Des numéros verts sont disponibles. Le 114 accessible sur Vodacom et Africell. Les autres contacts sont ceux des inspecteurs sur terrain. À noter, Lukunga 084 33 33 40 54. Tchangou 084 380 77 84. Les plaignants sont invités à se rendre aussi à l'antenne de l'inspection générale de la PNC au camp Kabila à Lemba ou à la cellule des plaintes sur avenue des justices, du moins pour ce qui est de la ville-province de Kinshasa.
En Ituri, 8 personnes tuées, d'autres blessées et une trentaine de maisons incendiées. C'est le bilan revu à la hausse de l'attaque de dimanche des miliciens d'autodéfense Zaïre dans le village de Bouchama à Djougou. Selon des sources locales, d'autres corps ont été retrouvés dans les décombres après les fouilles. Les notables de cette entité lancent un appel aux leaders de groupes armés de veiller sur la discipline de leurs membres inscrits au processus de paix. Ézéchiel Mouzalia.
Un groupe de militants dits d'autodéfense Zaïre, réfractaires au processus de paix, a fait incursion la nuit de samedi à dimanche dans la localité de Mouchama, dans le territoire de Djougou. Selon des sources locales, ces miliciens munis d'armes à feu et blanches ont pris d'assaut l'endroit où les habitants assistaient à un deuil. Le bilan provisoire avancé par des sources de sécurité locales fait état des 5 personnes tuées sur place et 7 autres blessées. Parmi les victimes, 2 femmes, une fillette de 3 ans et un vieillard décapité à la machette. Ces inciviques ont également mis les feux sur une trentaine de maisons. Grâce au mécanisme d'alerte précoce mis en place par la MONUSCO, des miliciens de la CODECO venus de Jitso ainsi que des militaires des FARDC sont intervenus pour repousser ces assaillants. L'un d'eux a été capturé et remis au régiment des FARDC à Fataki Centre, confie l'administrateur du territoire. Le président de la communauté Lori, qui regroupe le peuple Lendu, condamne cet acte de provocation en plein processus de paix. Claude Matesso appelle la population au calme et demande aux leaders des deux groupes armés d'instruire leurs membres d'arrêter de s'attaquer mutuellement. Bounia, Ézéchiel Mouzalia, Radio Okapi.
Au Kasaï central, 1674 cas d'accidents de circulation ont été enregistrés en 2024, statistiques livrées par la Commission nationale de prévention routière CNPR, tout en soulignant dans ce rapport que 752 personnes sont mortes par accident. Elle note que cela est la conséquence de la non-maîtrise du code de la route. Les directeurs provinciaux de la CNPR rappellent aux usagers de la route la nécessité de respecter les normes définies sur les routes pour éviter les accidents de circulation. Les propos de Célestin Kayoum sont recueillis par François Kadima.
C'est vraiment alarmant. Et pour cette fois-ci, nous pensons que comme l'arrêté du gouverneur Joseph Moïse Kamboulou est sorti, pour nous appuyer par rapport à tout ce que nous avons relevé comme défi, manque de nouveaux codes de la route et l'oubli. Donc, à 100%, nous pouvons dire que 10% maîtrisent les nouveaux codes de la route, 90% des usagers de la route ne maîtrisent pas les nouveaux codes de la route. Quand on parle des usagers de la route, nous voyons les piétons, les pousse-poussères, les chariots-mènes, les bicyclettes, les chauffeurs des taxis-motos, aussi les chauffeurs des automobiles, des véhicules. Donc, qu'est-ce qui arrive? Quelqu'un, il s'est acheté un engin, il commence à rouler, on l'a appris seulement comment faire entrer des vitesses, tout ça, mais les nouveaux comment, parce que la route a un langage. Lui, c'est seulement accélérer et mettre des vitesses, courir, mais marcher selon les nouveaux codes de la route. L'orientation de la prévention et la sécurité routière est réservée à la CNPR, la commission simplement. Prévenir les risques. Nous avons tout ce qu'il y a comme dose de prévention.
Actualité internationale.
L'Égypte a rejeté hier tout compromis qui porterait atteinte aux droits des Palestiniens dans un communiqué publié peu après une rencontre à Washington entre son ministre des Affaires étrangères Badr Abdelati et son homologue américain Marco Rubio. L'Égypte maintient sa position rejetant tout compromis sur les droits, y compris leur droit à l'autodétermination, à demeurer sur leurs terres et à l'indépendance, affirme un communiqué des Affaires étrangères après que le président américain Donald Trump a suggéré de déplacer les Palestiniens hors de la bande de Gaza dévastée par la guerre.
L'invité.
Alphonse Mataï est l'invité de ce journal. Il est le coordonnateur provincial du Maniema de PADRIR, programme d'appui au développement rural inclusif et résilient. Il dresse le bilan du projet de réhabilitation de 700 km de route du Maniema et répond aux questions de Florence Kizalunga.
Monsieur Alphonse Mata, bonjour.
Bonjour, madame la journaliste.
Monsieur Alphonse, nous sommes à quel niveau avec le projet de réhabilitation des 700 km de route du Maniema, quittant Lubutu, Punia, Kailo, Kindu, Kasongo, Samba, Muloé, que vous avez entrepris il y a quelques temps?
Aujourd'hui, nous avons reçu la non-objection du bailleur pour le contrat pour les études techniques et études d'impact environnemental. Donc, nous sommes au point de signer ce contrat avec le bureau d'études CETRI et les leaders du groupement qui a gagné ce marché. C'est pour dire que d'ici quelques jours, la firme sera maintenant en mesure de descendre sur le terrain pour commencer les études et cela nous permettra dans un avenir proche de savoir le coût et lancer le marché pour la réhabilitation de ces 700 km.
C'est-à-dire, c'est le financement de la BADIA qui faisait traîner les choses?
Pas du tout. C'était le financement OFID. Comme je l'ai toujours dit, c'est à partir du 8 mai que nous avons eu le premier virement de l'OFID. Donc, vous savez que ce marché, vu son ampleur, il était question de faire un appel d'offres international. Et un appel d'offres international prend minimum 6 mois pour réceptionner les dossiers. Si vous prenez le mois de mai, vous ajoutez 6 mois, nous sommes presque au mois de novembre. Et c'est à ce moment-là que nous avons réceptionné les dossiers, le temps de les traiter, le temps de renvoyer les premiers rapports à l'ANOH pour la shortlist et retourner chez nous pour appeler ceux qui sont dans la shortlist pour envoyer leurs offres financières, analyser. Donc c'est tout ce temps-là qui a fait que du mois de mai jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à peu près à 7 mois depuis que l'OFID nous a donné les fonds. C'est maintenant que nous pouvons dire que nous avons un bureau d'études pour effectuer ce travail-là.
Quand le traitement des dossiers prend beaucoup de temps comme ça, les projets en question, c'est de combien de temps?
Bon, le projet PADRIR prend fin en 2027, ça nous le savons nous tous, mais il y a des réalités, des évidences auxquelles nous ne pouvons pas échapper. Donc, si le projet qui a commencé en 2022 et que c'est à la moitié de l'année 2024 que vous avez les financements pour les infrastructures, donc nous n'avons qu'à constater qu'il y a eu un retard dans les financements, mais cela ne dit pas que le projet ne sera pas réalisé, parce que avec la stratégie que nous avons pris en commun avec le gouverneur de province que nous avons couché dans le contrat avec CETRI qui consiste à livrer les résultats des études par l'eau. Donc nous pensons que ici la firme répartit par exemple les tronçons à 4 ou 5 lots, donc au bout de 2 mois nous pouvons déjà avoir les résultats d'un premier lot et cela peut alors nous permettre de déjà lancer le marché d'une partie de la route et voilà que ça nous permettra de commencer le plus tôt possible et espérer terminer l'ensemble des 700 km dans la durée du projet.
Est-ce que ce retard est aussi dit dans les projets de l'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture?
L'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture ne connaît pas du tout un retard. C'était une idée qui a été énoncée dans le projet sans beaucoup plus de contenu. Et maintenant, là, nous, en tant qu'acteurs du projet, nous sommes maintenant en train de travailler pour donner corps à ce qui a été simplement énoncé. Et comme vous le savez, le projet a son budget. Il y a un constable qui donne les coûts de chaque activité du projet. Donc, pour l'instant, il n'y a pas un coût bien déterminé pour les activités d'entrepreneuriat. Donc, nous attendons. Nous avons la ferme conviction que lorsque nous allons faire la revue à mi-parcours du projet qui va intervenir au mois de septembre, nous aurons des moyens. Nous allons réaffecter des moyens pour avoir de quoi appuyer l'entrepreneuriat. Donc, ce qui est sûr, c'est que maintenant, nous avons une idée claire sur ce que nous pouvons faire. Et lorsque nous allons réallouer certains moyens sur d'autres activités, cela nous permettra d'être sûr que nous appuyons aussi l'entrepreneuriat. Bref, il n'y a pas de retard, mais plutôt l'énoncé dans le document du projet n'était pas très clair, mais aussi les moyens n'étaient pas directement alloués à l'entrepreneuriat. Nous allons travailler dans le sens d'allouer les moyens à ça.
Un projet tant entendu par la population vit ses pesanteurs. Quelle garantie donner à cette dernière?
La population du Maniema doit seulement être patient et croire à nous, parce que nous sommes en train de dérouler les activités de manière à éviter les pertes de temps et les pertes de ressources, et surtout travailler dans le sens de les satisfaire.
Monsieur Alphonse Matin, merci.
C'est moi qui vous remercie.